Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cet essai d'anthropologie environnementale, Anna Lohenhaupt-Tsing suit le Matsutake, champignon sauvage prisé au Japon et présent dans des forêts perturbées, pour examiner les formes de vie et de travail qui émergent dans les paysages abîmés par le capitalisme. Son enquête relie les cueilleurs précaires de l'Oregon, les intermédiaires du commerce international, les consommateurs japonais, les gestionnaires forestiers et les écosystèmes de plusieurs régions du monde. Le champignon N est ni une simple image ni un héros isolé, il permet d'observer concrètement des interdépendances entre humains, plantes, champignons, marchés et histoire coloniale. Tsing conteste l'idée d'un progrès linéaire organisé par la maîtrise, la standardisation et la croissance. Elle propose plutôt de prêter attention aux assemblages instables qui se forment dans les ruines industrielles et écologiques. Le livre combine ethnographie, histoire, économie politique et biologie afin de rendre pensables des mondes dont aucune institution ni aucun acteur ne contrôle entièrement les conditions d'existence. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Matsutake comme point d'entrée dans les ruines écologiques et marchandes, le Matsutake donne au livre sa méthode autant que son sujet. Ce champignon ne se laisse pas aisément soumettre à une production industrielle régulière et prospère dans certaines forêts dégradées, notamment en association avec des pins. Tsing part de cette particularité pour déplacer le regard, les paysages endommagés ne sont pas des espaces vides attendant une restauration ou une exploitation plus efficace. Ils sont aussi le lieu de recomposition écologique, sociale et économique, souvent imprévisible. La circulation du Matsutake révèle ainsi une chaîne mondiale singulière des cueillettes effectuées dans des conditions incertaines, notamment dans le nord-ouest des États-Unis. Alimente un marché japonais où le champignon possède une forte valeur culinaire et sociale. Cette trajectoire met en relation des mondes qui paraissent éloignés sans les réduire à un système parfaitement cohérent. L'enquête refuse donc l'explication par un capitalisme abstrait qui organiserait tout de façon uniforme. Elle observe comment des marchandises de luxe peuvent dépendre de milieux forestiers fragiles et de travailleurs situés aux marges du salariat stable. Le Matsutake permet de voir que la valeur marchande est produite par des relations écologiques et humaines qu'elle ne crée pas et qu'elle ne maîtrise jamais complètement. Deuxièmement, la précarité comme condition partagée plutôt que simple exception sociale, Tsing élargit le sens de la précarité. Le terme désigne certes l'insécurité matérielle des cueilleurs qui vivent de récoltes variables sans garantie comparable à celle d'un emploi salarié durable. Beaucoup ont été déplacés par les guerres, les migrations, le chômage ou les transformations économiques. Mais l'autrice ne traite pas cette situation comme une anomalie périphérique dans un monde qui serait par ailleurs stable. Elle y voit une condition devenue structurante dans les économies contemporaines et dans les environnements fragilisés. La précarité signifie que les moyens d'existence dépendent de rencontres, de saisons, de prix, de politiques publiques et de relations écologiques qu'aucun individu ne peut entièrement prévoir. Cette analyse évite deux simplifications. Elle ne romantise pas la liberté apparente de la cueillette, car l'incertitude expose les travailleurs à des rapports de force réels. Elle ne réduit pas non plus les personnes à des victimes passives, car elle développe des compétences, des réseaux et des manières de saisir des occasions. Le livre invite ainsi à analyser le travail au-delà de l'usine et du contrat formel. Les marges deviennent des lieux essentiels pour comprendre comment la richesse circule, comment les risques sont déplacés vers les plus vulnérables et comment des formes d'autonomie limitées peuvent coexister avec l'exploitation. Troisièmement, la critique du modèle de plantation et de la production standardisable, une cible centrale de l'essai est le modèle de plantation, que Tsing associe à une histoire longue de colonialisme, de monoculture et de discipline du travail. Une plantation vise à rendre le vivant prévisible, elle sépare les espèces, standardise les tâches, mesure les rendements et cherche à reproduire le même dispositif à grande échelle. Cette logique de mise à l'échelle a nourri des formes majeures du capitalisme industriel, mais elle simplifie brutalement les relations écologiques et sociales dont elle dépend. La forêt à Matsutake offre un contrepoint utile, non parce qu'elle serait intacte ou harmonieuse, mais parce que son fonctionnement ne peut être réduit à un plan uniforme. Le champignon apparaît à travers des collaborations entre organismes, sols, perturbations forestières et pratiques humaines. Sa présence reste incertaine et localisée. En opposant ces deux régimes, Tsing ne propose pas un retour nostalgique à une nature sans humain. Elle montre plutôt les limites d'une pensée qui ne reconnaît de valeur qu'à ce qui est reproductible, calculable et contrôlable. Cette critique a une portée politique, les dispositifs qui maximisent la productivité à court terme peuvent détruire les conditions relationnelles nécessaires à la vie et au travail. Comprendre les conséquences de la plantation suppose donc de suivre ses effets sur les paysages, les communautés et les espèces. y compris lorsqu'ils échappent aux indicateurs économiques habituels. Quatrièmement, contamination et assemblage multi-espèces contre le mythe de la séparation. Le mot contamination occupe une place importante dans la pensée de Tsing. Il ne renvoie pas ici à une souillure qu'il faudrait éliminer, mais à la transformation mutuelle qui résulte des contacts entre êtres, pratiques et histoires différentes. Les humains ne vivent pas à côté d'une nature autonome, ils habitent des assemblages où champignons, arbres, sols, migrants, commerçants, états et techniques agissent les uns sur les autres. Cette idée s'appuie sur les relations écologiques qui rendent le Masutake possible, mais elle ne se limite pas à la biologie. Elle permet aussi de comprendre comment les trajectoires de guerre, les migrations asiatiques, l'industrie forestière américaine et les goûts japonais se croisent dans une même filière. Aucun acteur ne possède la vue d'ensemble ni ne commande seul le résultat. L'intérêt de cette approche est de refuser les frontières trop nettes entre naturel et social, local et mondial, autonomie et dépendance. Elle exige toutefois une attention précise aux asymétries, toutes les relations ne sont pas équitables. Et l'interdépendance peut aussi prendre la forme de la domination. Pour Tsing, penser en termes d'assemblage ne consiste donc pas à célébrer indistinctement le mélange. Il s'agit d'étudier les collaborations concrètes, leurs conditions matérielles et leurs effets inégaux. Cette perspective rend visible des formes de causalité distribuées que les récits centrés sur un seul agent, une entreprise ou un état tendent à effacer. En dernier lieu, apprendre à observer des possibilités de vie sans promettre une réparation totale. Le sous-titre du livre ne propose pas une recette de sortie du capitalisme ni un programme de restauration universelle. Tsing demande plutôt comment reconnaître des possibilités de vie dans des lieux déjà transformés par les destructions économiques et écologiques. Cette orientation implique une discipline de l'attention. Il faut suivre les temporalités lentes de la forêt, les savoirs pratiques des cueilleurs, les variations de la demande commerciale et les histoires locales qui rendent certaines collaborations possibles. Une telle observation s'oppose au diagnostic qui ne voit dans les ruines que l'effondrement, tout comme aux promesses technocratiques d'une maîtrise complète des crises. Les ruines restent des lieux de perte, de violence et d'inégalité. Elles ne deviennent pas désirables parce qu'elles abritent du vivant. Cependant, les considérer uniquement comme des espaces morts empêcherait de comprendre les attachements et les activités qui y persistent. L'apport intellectuel du livre tient à cette position exigeante, l'espoir ne découle pas d'une garantie de progrès, mais de l'étude de capacités situées à composer avec des conditions incertaines. Pour les lecteurs intéressés par l'écologie, cela encourage des enquêtes attentives aux interdépendances réelles plutôt que l'application de catégories générales. Pour l'économie politique, cela rappelle que les chaînes de valeur reposent sur des mondes vivants et sociaux qu'elles ne peuvent entièrement standardiser. En conclusion, le livre s'adresse en priorité aux lecteurs d'anthropologie, d'écologie politique, de sciences sociales et d'études du capitalisme. Mais il reste accessible à toute personne prête à suivre une enquête dont les détours font partie de la démonstration. Il sera particulièrement utile à ceux qui cherchent un cadre pour penser ensemble crise écologique, travail précaire, commerce mondial et relations entre espèces. Son bénéfice principal n'est pas de fournir des solutions immédiatement applicables. Il apprend plutôt à mieux poser les problèmes repérés, ce que les récits de croissance, de contrôle et d'efficacité laissent hors champ, puis examiner les dépendances concrètes qui soutiennent une activité économique ou un milieu de vie. Cette attention peut nourrir la réflexion sur la gestion forestière, les chaînes d'approvisionnement, les migrations et les politiques environnementales, sans faire croire qu'une réponse unique conviendrait partout. Par rapport à de nombreux essais sur l'anthropocène ou l'effondrement, l'ouvrage se distingue par son ancrage ethnographique et par son refus des panoramas trop abstraits. Le Matsutake ne sert pas seulement d'emblème écologique, son parcours oblige à traverser des mondes sociaux précis, depuis la cueillette jusqu'au marché japonais. Tsing évite ainsi à la fois le catastrophisme immobile et l'optimisme technologique. Sa proposition est plus modeste et plus exigeante, apprendre à observer les formes de coopération, de conflits et de survie qui apparaissent dans des paysages déjà abîmés, afin de ne pas confondre réparation, domination et possibilité de vivre. Si vous souhaitez soutenir Anna Lowenhope Tsing, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.